Salut les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch ici toutes les semaines. On analyse, on résume, on décortique Monday Night Raw. Pour m'accompagner dans cette lourde tâche cette semaine, l'ami Giscal, comment ça va Giscal ?
Ah, salut Ringside, salut tout le monde. Bah écoute, ça va pas mal et toi ?
Ah bah moi c'est la pêche, hein. Noël arrive. Les marrons chauds sont là, les compotes aux marrons sont là, tout va bien. Alors, gros week-end hein, qui vient de se passer, puisque le dernier pay-per-view de l'année de la WWE a eu lieu, TLC, Tables, Ladders and Chairs.
Yes.
Les retombées sont là, l'analyse est faite, l'analyse est en ligne, hein, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes. On est disponible, hein, c'est-à-dire YouTube, iTunes, PodCloud, Spotify. Je vous rappelle aussi qu'on est sur Twitter, on est sur Facebook, @catchupcdc sur Twitter. On doit même avoir un Instagram qui traîne quelque part. Donc voilà, hein, si vous n'avez pas encore écouté notre analyse de TLC, jetez-vous dessus, c'est dispo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratos. Puis vous souscrivez à la petite cloche si vous êtes sur YouTube, comme ça vous êtes alerté dès qu'on met quelque chose en ligne.
Voilà. Ne vous prenez aucun épisode.
Aucun épisode. Et donc, bon, le truc important de TLC, c'est la défaite de Baron Corbin face à Braun Strowman.
Oui.
Grâce à une entourloupe de Braun Strowman, bah, qu'on vous raconte dans l'analyse de TLC sur Catch-Up. Il a été annoncé tout de suite après le pay-per-view, ou peut-être même avant, je ne sais pas, l'arrivée de ce soir de Vince McMahon. Au Monday Night Raw de ce soir qui va changer les choses hein, parce qu'on sait que les ratings de Raw se sont effondrés là, sur les semaines précédentes.
Oui, paraît-il. Oui.
Paraît-il, hein, le public n'est pas content, donc le chairman prend les choses en main. It's post time, on est à Sacramento, c'est le 17 décembre et le show démarre avec l'arrivée de Vince McMahon. Sa célèbre musique qui retentit nous explique que ça fait 25 ans hein, que Raw est à l'antenne. Et pourquoi Raw a survécu 25 ans ? Parce qu'ils savent évoluer avec le temps. Tout ça sous l'égide d'un seul homme, hein, d'un seul génie. Mais désormais, il ne peut pas tout faire lui-même, hein, le pape du catch, Vince McMahon. Donc, dans la foulée, ceci étant expliqué, il nous envoie les invités de ce soir qui l'accompagnent. Stephanie McMahon d'abord qui arrive, Triple H ensuite et Shane O'Mac. Donc Stephanie, c'est la General Manager de Raw, je crois, à la base.
C'est ça. La Commissioner.
Ah, Commissioner, ouais. Triple H, il est.
Il est CEO, patron d'NXT. Voilà. D'ailleurs, une belle pop hein, pour Triple H, comme d'hab.
Ouais, grosse pop pour Triple H. Ben, grosse pop pour Shane O'Mac aussi, hein, le patron de SmackDown. Alors tout le monde s'excuse hein, de la médiocrité des shows hein, ils ont peut-être pas assez écouté le public donc ce soir ils reprennent en main Monday Night Raw, mais ils reprennent aussi en main SmackDown hein, donc c'est le début du nouvel ère hein, tout simplement que ce soit pour Raw ou pour SmackDown hein, tant pis si SmackDown c'était bien c'est la
oui,
mission.
Ça j'étais un peu emmerdé ouais, quand j'ai entendu ça
mais bon, rassure-toi hein, ils vont nous donner ce qu'on veut.
Oui.
Des nouvelles superstars, des nouveaux types de matchs, des nouveaux types d'affrontements, de la nouveauté. Et désormais, c'est le public qui décide, ce sera nous les patrons. Donc là-dessus, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas content, hein, parce que la foule explose de joie. Hein, maintenant que c'est eux les patrons, on va avoir du bon spectacle. C'est Baron Corbin donc, qui débarque, hein, le gros mécontent, hein, puisqu'il était à deux doigts de devenir General Manager à vie de Monday Night Raw, mais comme il a perdu son match contre Strowman. Eh bien, ce ne sera pas le cas. Grosse bronca hein, contre Baron Corbin.
Oh oui.
Ouais, alors qu'il nous explique quand même qu'il n'y a pas plus enthousiaste que lui pour un nouveau départ. Hein. Mais il demande un peu de justice par rapport à son traitement. Il veut ne serait-ce qu'une simple discussion hein, pour qu'on puisse un peu faire le point sur sa situation. Alors, il a beaucoup de mal à parler. Hein. Il y a une bronca constante. Il se fait huer dans tous les sens. Il y a un peu un jeu de la bronca hein, qui s'installe avec Triple H, Stephanie, Shane aussi, qui encourage la foule un peu à huer Baron Corbin dans toutes les manières possibles. On a des chants You Suck qui commencent à se faire entendre. Alors Baron Corbin prend le public à témoin. Il explique que normalement Braun Strowman n'aurait pas dû être là à TLC, donc il n'était pas prêt. Tout ça n'est pas juste. Mais il espère bien donc que les patrons vont le soutenir et le rétablir dans ses fonctions. Alors ça, évidemment, no chance in hell. Je crois que c'est Stéphanie qui lance ça.
Oui, c'est Stéphanie.
Ouais, alors il y a peut-être une chance quand même. Hein, il y a un petit conciliabule quand même des quatre fantastiques là. La famille McMahon au complet. Si ce soir il gagne son match contre Kurt Angle, eh ben il sera restitué dans ses fonctions. On a très vite Yves Slater qui débarque, qui sera l'arbitre de ce soir. On se souvient qu'à TLC, il s'est retourné contre Baron Corbin, Yves Slater qui est désormais arbitre. Donc il y a le match qui démarre, hein, entre Kurt Angle et Baron Corbin. Après la pub, alors que Baron Corbin est en train de dominer un petit peu, il y a Triple H qui débarque et il décide de transformer l'affrontement en handicap match. Et là-dessus, donc, il y a de Bobby Roode et Chad Gable, les champions tag team, ainsi qu'Apollo fucking Crews qui débarque. Et donc, on est parti désormais pour un match handicap. Alors, c'est bien mal barré pour le Baron. Surtout qu'ensuite, il y a Shane O'Mac qui débarque aussi et qui transforme le match en no DQ. Hein, pas de disqualification possible. Toutes les coups sont permis. Alors là-dessus, il y a Heath Slater qui se lâche, hein, qui commence à taper directement sur le Baron. On va chercher les chaises. On démonte le Baron vraiment méchamment. Le public demande des tables. Hein. Ils veulent des tables. Alors, il y aura d'abord un Olympic Slam. Alors, il se prend, oui, enfin, les finishers de tout le monde, hein, le Baron. Olympic Slam, compte 2-3. Ça y est, il a perdu. Et après le match, comme désormais, on écoute le peuple, eh ben, on va chercher la table et on fait passer le Baron à travers la table après un énorme Olympic Slam, encore une fois, de Kurt Angle. Voilà, le peuple a parlé, la nouvelle ère commence, c'est le check-up total. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener de show qui est radicalement révolutionnaire?
Oui, c'est ça, c'est radicalement révolutionnaire quand tu dis. Écoute, bon, j'ai trouvé ça sympa. Dans l'ensemble, je trouvais ça sympa, même si, ta petite pointe d'ironie à la fin résume bien la situation quand même. C'est on nous promet une révolution, pouvoir au peuple, et puis finalement, on nous sert, somme toute, une rediffusion de TLC, hein, un petit peu, hein, avec cet opener. Bon, alors, voilà, en ouverture, voir toute la famille McMahon réunie, c'est toujours un visuel assez sympa, belle énergie de la foule. Voilà, tout le monde sort un petit peu ses petits trucs et semble annoncer un renouveau, pouvoir au peuple. Ce sera vous maintenant les bookers ou un petit peu le GM de Raw. En substance, c'est un peu ce qu'il nous dit. On va tous un peu être les bookers du show.
Bon, ouais.
Je sais pas trop comment ça va se retranscrire. Je suis un petit peu sceptique de cet effet d'annonce là, mais bon, ok, bénéfice du doute, on va dire. Et puis après ce match plaisant, mais bon voilà, c'est une rediff. Alors je suis pas fan de ce concept de finalement resservir ce que t'as fait en pay-per-view le lendemain. Ça enlève un petit peu du concept de pay-per-view, quoi. C'est-à-dire que si tu voulais voir Baron Corbin se faire défoncer la tronche, il fallait payer ce week-end. Donc ça a fonctionné, hein. Le public était à fond. D'ailleurs, c'est plutôt positif par rapport à aux semaines d'histoire qu'il y a eu et au personnage de Baron Corbin, c'est-à-dire que le public était à fond vraiment pour le voir se faire dérouiller la tronche. Mais sur le principe, c'est pas quelque chose auquel j'adhère des masses, ce concept. Donc oui, j'ai bien aimé, globalement, j'ai bien aimé cette intro, mais sur le principe, je suis pas super fan. Après, il y a cette annonce. Cette annonce qui pour l'instant me laisse perplexe, mais on va voir ce qui s'est déroulé dans le reste du show. Est-ce que c'est vraiment la révolution? Mais à ce stade-là de l'émission, j'étais pas très convaincu, on va dire.
Ouais, voilà, il y a un peu de la poudre aux yeux qui nous est jetée comme ça, ouais. Avec ce remake effectivement de ce qui a été à TLC. Mais bon, il fallait un petit peu exorciser le mal de ces dernières semaines.
Il a été exécuté là.
Ouais. Voilà, personnifié par le Baron. Tu as des inquiétudes sur la suite de la carrière du Baron?
Non, pas spécialement. Même d'ailleurs, je pense que c'est même plutôt très positif ce qui s'est passé pour lui, parce que la réaction de la foule valide en quelque sorte finalement son travail, je trouve, des dernières semaines. Et puis mine de rien, écoute, il a tenu son rang au micro, je trouve, de manière générale. D'ailleurs, il a eu une promo avec les quatre McMahon face à lui, ce qui est pas n'importe quoi là en ouverture de show et tout. Donc non, je suis pas inquiet. Je pense que voilà, et là évidemment, il en a pris plein la tronche, et je pense que pendant un petit moment, il va être, ça va être un peu le loser de service. Mais je pense que c'est plutôt positif tout cet angle de GM elect qu'il a pu avoir.
Ouais. Bah, au final, hein, il a fait le taf. Puisqu'on a une énorme bronca. Hein,
ouais, le payoff était là, quoi.
Donc voilà, effectivement, je pense comme toi, hein, c'est-à-dire qu'il va sûrement s'en bouffer encore quelques semaines, mais bon, il y aura de l'avenir pour lui dans le roster. Des nouvelles de John Cena, hein, qui a gagné l'Awards de Mohamed Ali, hein, parce qu'il est à la fois talentueux et gentil et généreux.
Et beau, et droit, et vertueux, et costaud, oui, très costaud.
Voilà, il a bien mérité.
Et chevelu aussi, très chevelu.
Et chevelu, hein, nouvelle coiffure. Je me demande s'il a fait des implants. Je suis sûr, parce que c'est pas possible. Tu crois pas ?
Oh, non, je pense pas. Tout est naturel chez John, je vois pas pourquoi il s'y mettrait aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. Je suppose qu'il finira bien par revenir un jour. Mais on est content pour lui en tout cas.
Oui.
La suite des opérations, c'est les répercussions de TLC encore une fois. Finn Balor affronte Dolph Ziggler. Ziggler qui est venu intervenir dans le match à TLC, qui a permis la victoire de Balor. Mais alors après, ils se sont fêtés la gueule dans les coulisses parce que Dolph Ziggler, c'est pas un gentil, c'est pas un méchant. Et quand on lui parle mal, il met des patates. Et Balor, il aime pas trop qu'on interfère dans ses matchs. Hein. Donc là-dessus, ça se fout sur la gueule assez joyeusement. C'était assez stiff avec des gros dropkicks de Balor. Et il y a Drew McIntyre qui débarque. Alors il est accueilli d'abord par Ziggler qui le cueille avec un coup de genou, puis il y a Balor qui passe par-dessus la troisième corde là pour s'écraser sur McIntyre qui est un petit peu mis hors jeu. Ziggler lui il en profite, il place le Ziggler dropper pour le compte de deux sur Balor. Et ensuite il y a Drew qui revient quand même dans l'action et qui entraîne du coup une disqualification. C'est la fin du match. Drew McIntyre va faire le ménage, Claymore kick pour tout le monde. Un McIntyre triomphant face à Ziggler et Balor qui n'ont pas pu régler leur histoire. Mais un bien joli petit match, moi j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence là qui fait directement suite à TLC au final, hein?
Ouais, bah voilà, c'est ça. C'était très très efficace dans le prolongement de TLC avec le petit début d'histoire qui s'était développé entre Finn Balor et Dolph Ziggler à TLC. Donc ils ont réglé leur compte lors de ce Raw, interrompu logiquement par un Drew McIntyre qui voulait prendre sa revanche. Donc voilà, ça se suivait très facilement. En plus, c'était servi avec un match qui, je sais pas s'il était inédit, mais en tout cas, ça faisait plaisir de voir Finn Balor contre Dolph Ziggler. Je pense pas qu'on l'ait eu récemment, là, je sais pas. Donc, très cool. Et puis, écoute, si ça peut nous amener à une feu de entre les trois hommes, un triple threat ou quelque chose comme ça, moi je suis preneur. Je trouvais que c'était très sympa.
Ouais, triple threat entre les trois, ça peut être plutôt divertissant. Voilà. Bon, en tout cas, c'était propre, c'était net. Hein, c'est la suite des aventures. J'espère vraiment qu'on va enfin avoir le gros push de Finn Balor qui est quand même toujours aussi populaire.
Ouais, mais c'est vrai que cette victoire à TLC, assez inattendue, pas pour tout le monde, mais...
Je sens bien 2019 pour Finn Balor, moi.
Mais c'est vrai que cette victoire est d'une certaine manière... Alors, à la WWE, les victoires, les défaites ne sont pas toujours lourdes de sens, mais celle-ci, pour le coup, retient pas mal mon attention, parce que c'est vrai que... Drew McIntyre était un tel prospect, en tout cas présenté tel quel à l'écran de manière tellement invincible, que le voir perdre, certes sur intervention, mais le voir perdre comme ça en pay-per-view contre un Finn Balor qui n'allait pas vraiment quelque part, ça a quand même du sens. Donc ça prouve que peut-être Finn Balor n'est peut-être pas si loin que ça dans l'esprit des bookers, et ça fait plaisir. Donc c'est assez positif, même si bon. On pourra peut-être reprocher quand même que Drew McIntyre perde des matchs comme ça s'il est sur la voie rapide vers le top. Mais bon, écoute, si c'est pour Finn Balor, c'est bien.
Je suis pas sûr que la voie soit aussi rapide pour Drew McIntyre. Hein. Je pense qu'ils vont le travailler encore un petit moment avant de vraiment le lancer sur le haut de l'affiche.
Bah, en tout cas, ça semble être, en effet, annonciateur de ça. Ouais.
On nous avait annoncé un push expéditif. Je pense que ça prendra un petit peu plus de temps. Et donc effectivement une bonne place à prendre pour Finn Balor, surtout qu'il y a un top babyface qui est en péril, c'est Seth Rollins, mais ce soir c'est Dean Ambrose qui est en qui vient se pavaner puisque Rollins a perdu son titre de champion intercontinental.
Et oui.
À TLC, dans un match qui a été très très critiqué par les fans, hein, sur les réseaux sociaux. Apparemment.
Moi aussi.
Ouais. Toi aussi, ouais, effectivement. Je t'ai entendu. Il y a que Bad Karma, je crois, qui a bien aimé le match. Moi aussi, j'ai trouvé ça complètement à côté de la plaque. Hein, ouais. Clairement, c'était pas bon. C'est pas que c'était pas bon dans l'exécution, mais c'est le booking qui était complètement.
Oui, c'est ça.
Complètement
on
hors
raconte
sujet.
Pas la bonne histoire.
Ouais. Voilà, on va pas raconter la bonne histoire avec un Seth Rollins qui était bien trop dominant, moi j'ai trouvé dans le match, et Dean Ambrose qui a pas fait de job, et ça s'est entendu, le public a donné de la voix pour dire que tout ça était bien ennuyeux. Oui. Hein, qu'on se faisait chier à ce TLC pendant ce match-là, hein. On attendait les filles qui ont fait un main event assez exceptionnel. Mais donc ce soir, c'est Dean Ambrose, hein, qui a gagné le match, qui est là, il est le nouveau champion, il débarque avec ses hommes de main, toujours avec les masques à gaz. Il réclame le respect. Il explique qu'il a tenu toutes ses promesses. Hein. Il a dit qu'il allait faire craquer Seth Rollins. Il a expliqué qu'il allait prendre le titre intercontinental. Il explique que Rollins a abandonné le peuple, hein, tout simplement.
Voilà.
Mais bon, au final, Dean Ambrose, il nous explique aussi qu'il n'a pas vraiment besoin du respect, puisqu'il a le titre intercontinental. Ouais, il a la ceinture avec lui. Il en rajoute une couche sur Seth Rollins. Hein, il dit oui, il y a pas si longtemps, Rollins, il avait deux titres. Maintenant, il n'a plus rien. Et je vais continuer à tout lui prendre. Je vais le renvoyer au caniveau. Mais il lui laisse quand même une chance. Il lui dit, ben écoute, ce soir, si tu viens admettre tes torts, si tu viens admettre ta défaite, on en restera là. Mais personne ne vient. Alors il dit, ben si c'est comme ça, je fais un open challenge. Mais personne ne vient non plus. Alors il décide de faire un open challenge pour tous ceux qui ne s'appellent pas Seth Rollins. Et donc là, il y a un certain Tyler Breeze qui débarque. Quelqu'un qu'on surnomme Prince Pretty. Il était partenaire de Fandango pendant longtemps. Il paraît qu'il a fait un gros match à NXT contre Ricochet pour le titre nord-américain la semaine dernière.
Ouais, c'est en effet.
Un personnage excentrique, mais un sacré athlète, nous dit-on. Donc s'ensuit un match qui est essentiellement un headlock de 5 minutes avant un retour de Tyler Breeze. Beauty shot, crossbody de la troisième corde, super kick, tout ça pour le compte de 2. Dirty Deeds Out of Nowhere et victoire de Dean Ambrose. Là-dessus, la musique de Rollins retentit, hein, parce que de Dean Ambrose avait repris le micro un peu pour dire regardez comme je suis costaud. Mais il n'y a personne qui vient, et en fait, il y a un des hommes de main de Seth Rollins de Dean Ambrose, pardon, qui se glisse derrière Ambrose justement et lui place un super kick. Il se démasque, c'était en fait Seth Rollins. Un plan machiavélique de l'architecte. Il va tabasser le reste des hommes de main de Dean Ambrose et faire fuir le champion intercontinental. Un peu plus tard dans l'émission, il y a une interview de Seth Rollins aussi, qui est interviewé par Charlie Caruso. Il explique que justement son match à TLC était un naufrage. Que pire que la perte de son titre intercontinental, il a entendu la foule hier soir. Alors il dit pas clairement, hein, qu'on a dit que c'était boring, que c'était ennuyeux, mais il explique qu'il a entendu ce qui s'est dit. Et puis ça c'est difficile parce que c'est toute sa vie le catch. Mais rassurez-vous, il va se ressaisir. Il va commencer par anéantir Ambrose, et là-dessus il y a le Baron qui débarque. Il accuse Rollins d'avoir causé sa perte. Il disait que tout allait bien avant que Rollins commence à le critiquer ouvertement dans le show, qu'il lui prendrait bien son titre intercontinental, mais comme Dean Ambrose lui a déjà pris, il n'y a plus grand-chose à faire. Alors là, Rollins lui dit « Mais écoute, mon gars, mais en fait, il ne parle pas, il lui met une droite dans la gueule. Le baron est encore une fois à terre et Rollins s'en va comme un prince. Pauvre ouais. Baron. » Un Seth Rollins qui met les coucougnettes sur la table, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, ce Tyler Breeze là, qui sort de nulle part,
Tyler Breeze, ouais. Ouais, sorti de nulle part. Écoute, je serais peut-être pas aussi sévère que de résumer le match à un headlock de 5 minutes. Moi, je trouvais que c'était plutôt sympa. Je trouve que Tyler Breeze a bien servi la réplique à Dean Ambrose. c'était un match court et plutôt fun. Après, c'est sûr que oui, on n'a jamais cru à la victoire de Tyler Breeze, donc c'est un peu le défaut du match, mais bon. J'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai trouvé la promo de Dean Ambrose vraiment, vraiment pas mal. Il continue à lui à développer son personnage. Il continue à faire, c'est le seul, moi, je trouve, sur les deux, qui fait vraiment du travail dans cette rivalité, en fait. Il continue, voilà, il développe son personnage avec encore une autre promo qui est assez convaincante face caméra avec le public. Je regrette un petit peu qu'il ait pas gardé, moi, son petit masque à gaz. Maintenant, il y a que son équipe qui l'a, mais je trouve que c'était sympa quand il l'avait, mais bon, écoute, ok. Donc voilà, écoute, il continue sa croisade pour défaire Seth Rollins, le priver de tout ce qu'il avait, de le rendre plus misérable que tout pour le punir de ses péchés. J'aime assez bien, voilà, cette croisade parce que lui semble un petit peu focus, sur Seth Rollins, alors que l'inverse n'a pas l'air d'être forcément évident, parce que Seth Rollins, on l'a dit, déjà avant le match à TLC, il y avait des promos qui étaient lunaires, hein, de Seth Rollins, qui disaient, écoute, Dean Ambrose, c'est pas mon problème, ou des conneries impensables, des trucs comme ça. Et puis alors là, maintenant, il semble être obnubilé par autre chose, c'est ce que pense le public et la perception du produit, je sais pas, c'est parce que déjà la semaine dernière on a eu une promo très étrange quand même de Seth Rollins qui s'était fait un petit peu la voix de l'IWC là, en disant que les ratings sont low, l'émission est pourrie, les revivals méritent la ceinture, c'est n'importe quoi, machin et tout. Là cette semaine il fait quelque chose encore une fois qui est assez étrange quand même, qu'il reconnaît les réactions du public par rapport à son match qui a été boring, et donc du coup il en prend acte, il en tirera les conséquences. On a l'impression d'entendre parler un politique limite.
Ouais.
Très étrange ce positionnement, et quand je dis étrange, c'est pas forcément dans le bon sens du terme, ouais. Positionnement de Seth Rollins qui se perd un peu dans cette affaire et qui on a l'impression qu'il est hors storyline et qui c'est un peu un outil de communication là,
carrément
depuis deux semaines, et je comprends pas trop ce qu'ils essayent d'obtenir avec ça. Donc je suis pas fan du tout de ce qui nous fait le bon Seth Rollins, et ça m'emmerde un peu parce que il y avait une histoire qui était toute faite, quoi. Ils sont en train de tout déconstruire là, donc je suis pas très content.
Ouais. Ils ont fait une grosse erreur de booking sur TLC.
Ouais.
C'est pas la première fois que Seth Rollins il se retrouve dans une position comme ça. Hein. Il y a eu l'Iron Man match contre Dolph Ziggler où ça s'était très mal passé aussi avec le public.
Oui, souvenez-vous,
il y a plus longtemps, quand il y avait eu le premier match pour le titre universel contre Balor, où la foule avait hué la ceinture pendant tout le match, il s'était désintéressé du match, il s'était fendu d'un tweet assez sévère envers le public à l'époque. Donc un peu parfois mal aimé du public, bizarrement, autant il peut être populaire, autant il y a des fois où ça peut se retourner un petit peu salement contre lui. Et
c'est fou parce qu'il est quand même pourtant, enfin, si on fait machine arrière, il y a même encore peut-être deux semaines ou trois semaines, il est ultra over, quoi. Enfin, Monday Night Rollins,
ça sort pas de nulle part,
ouais.
Mais il y a ce côté-là aussi, parce qu'il faut dire aussi que son personnage, il a été très mal construit, de son personnage de babyface, hein, autant quand il était heel, l'architecte, le mec qui a trahi le shield, c'était quelque chose, autant son passage du bon côté de la force, quand il s'est retourné contre l'autorité, ça a pris des plombes, et il a passé des semaines à chouiner auprès de Triple H pour rester son favori. Derrière, il y a eu que des rivalités qui n'ont pas forcément été transcendantes, et cette rivalité-là contre Dean Ambrose qui part un peu en cacahuète, hein, puisqu'ils n'arrivent pas à faire le gros match de pay-per-view qu'on attend d'eux alors qu'ils sont censés se connaître par cœur. On est là sur une drôle de période pour Seth Rollins, qui a peut-être pas les épaules assez solides pour être le top guy de la compagnie, comme j'ai l'impression qu'ils veulent donc ils aimeraient bien le faire, hein, parce que je pense qu'ils comptent un petit peu sur lui pour remplacer Roman Reigns tant qu'on trouve pas une autre solution,
c'est ça.
Mais je suis pas sûr que ce soit la personne adéquate, parce que aussi bon qu'il soit dans le ring, généralement, quand il fait des promos, pas qu'il soit mauvais au micro, mais c'est qu'à chaque fois, on lui fait raconter des trucs assez ennuyeux. Il est toujours à nous raconter sa semaine, à nous dire tout ce qu'il a sur le cœur, sans laisser une part de mystère.
Ouais.
Et puis on voit que même dans un match très important, le booking il est à côté de la plaque. Et je pense pas que ce soit que la faute des bookers. Je pense qu'il a une part de responsabilité aussi dans l'histoire, tout comme Dean Ambrose, qui aussi a passé des années à nous faire croire qu'il pouvait être le plus grand heel de la fédération. Au final, ça casse pas des briques non plus sa performance. Moi, je trouve qu'il est toujours un petit peu à surjouer. C'est pas vraiment ce qu'on attend des mecs du Shield et des main eventers de la WWE. Donc là, je pense que leur place elle est un petit peu en péril hein, pour les deux. Mais l'avenir nous dira ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment bizarre cette manière de vouloir faire de Seth Rollins le porte-parole des critiques d'Internet. Hein. Je suis pas sûr que c'est une bonne solution non plus. Hein.
Non, c'est pas une bonne solution du tout.
Voilà, mais bon, hein, y a toujours moyen d'avoir une seconde chance à WWE et ils ont quand même beaucoup de talent, du moins du côté de Seth Rollins. Sur Dean Ambrose, je commence à me poser des questions. Je vois que toi, t'es plutôt convaincu.
Ouais, enfin, en tout cas, écoute, le travail qu'il fait sur son personnage, je trouve, est plutôt bon. Après, c'est évidemment pas le catcheur le plus fun et qui va te transcender un match, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, je trouve que le travail qu'il fait sur son personnage, ses promos. Moi me font dire qu'il peut être un heel tout à fait correct dans les mois à venir à Raw, quoi, passer cette histoire avec Seth Rollins. Ouais. Écoute, oui.
Ok, ben écoute, on verra ce qu'on nous réserve. Après, on sait que Dean Ambrose, il a toujours été un petit peu en dents de scie hein, au niveau de ses performances et qu'il était rarement au rendez-vous quand c'était le bon moment. Hein. On se souvient de son règne à SmackDown qui n'était pas transcendant.
Non.
Ouais. Alors, la suite, avançons un peu. Hein. Drake Maverick, vous souvenez, Drake Maverick, le manager de AOPP, il vient réclamer un title shot pour son équipe, hein, Shane McMahon. Hein. Il dit, voilà, on s'est fait flouer la semaine dernière. C'est désormais Chad Gable et Bobby Roode les champions, c'est dégueulasse. Shane O'Mac, il ne le prend pas vraiment au sérieux. On vous avait donné le titre sur un plateau au départ, donc vous n'allez pas pleurer maintenant. Si vous voulez votre droit à un title shot, il va falloir le gagner. Et il organise un Fatal 4-Way avec tout ce que Raw compte d'équipe, donc The B-Team, Bo Dallas et Curtis Axel, The Revival et les Lucha House Party. Et donc, on aura un Fatal 4-Way un peu plus tard dans l'émission. On va peut-être y aller tout de suite.
Oui.
Victoire surprise de The Revival après un blind tag et un chatter machine sur Bo Dallas. Après un match qui était plutôt bien troussé, mais rien d'exceptionnel. Enfin,
non.
Peut-être que toi t'as trouvé ça transcendant.
Non, vraiment pas exceptionnel. Non.
Voilà, donc on avait parlé du Revival, Seth Rollins en avait parlé en disant qu'ils étaient sous-exploités. Ben, ce soir, ils gagnent leur title shot. Et ce sera pour la semaine prochaine, hein, si je dis pas de bêtises, l'épisode de Noël.
Ok, j'avais pas fait gaffe. Bon.
Il me semble. Hein.
Ouais, continuons à balancer des matchs pour les titres sans histoire, allons-y.
Ouais, bon, je m'avance peut-être un peu, mais.
Non, mais il s'en serait tout à fait capable. Oui.
Ouais. Qu'est-ce que t'as. T'es content de voir le Revival remonter en haut de l'affiche?
Oui et non. C'est-à-dire que pour moi, le mérite dans le catch, ça veut rien dire. C'est vraiment quelque chose qui m'est complètement abstrait. Ce qui compte pour moi, c'est ce qui se passe à l'écran et ce qu'on nous raconte et ce qu'on décide de nous raconter. En l'occurrence, avec le Revival, on raconte rien depuis des semaines. Donc, ouais. Donc moi, qui soit excellent dans le ring probablement de très très bons workers et qui aient mangé leur pain noir, c'est très bien. Mais les voir du jour au lendemain challenger numéro 1, écoute, ok, ça va leur donner une opportunité justement de prouver que qui mérite finalement. Mais là aujourd'hui, je suis pas spécialement enchanté. Pour la bonne et simple raison que voilà, il y a pas vraiment de rivalité, il y a pas d'histoire, il y a pas de choses qui se passent dans la division tag team de SmackDown, de Raw au contraire, parce que SmackDown tout va bien. Par contre, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui s'est passé, c'est que Shane McMahon a d'une certaine manière de façon presque quasi explicite, abolit la règle du rematch pour automatique pour les champions. Ce qui fait donc partie de cette révolution, de ce vent de fraîcheur. On shake things up là, on vire les règles établies. Donc bon bah AOP, ils ont pas leur rematch automatique, c'est terminé cette histoire là. Alors on va voir combien de temps ça dure cette nouvelle règle, parce que c'est quand même il y a peut-être des moments où ce sera difficile quand même à tenir. C'est quelque chose qui est tellement ancré dans la tradition, on va dire à la WWE, que c'est compliqué, mais bon, on verra pour ceux qui ont déjà vu SmackDown que bon écoutez, manifestement ils veulent peut-être faire quelque chose de ça. Toujours est-il que ça, c'était une info qui était, je trouve, assez intéressante et qui peut aider justement à peut-être mettre plus facilement quelque chose que la WWE a un peu de mal à faire, je trouve, de manière générale. Alors là, je dérive pas forcément sur les équipes, mais de manière générale, à mettre des points finaux un peu à ces rivalités. La WWE a un peu du mal, je trouve, de manière générale, à faire ça, à savoir quand est-ce qu'une rivalité doit s'arrêter, vraiment prendre des risques et mettre les couilles sur la table et donner une victoire décisive à quelqu'un et ne pas sans cesse faire des rematchs, tout le temps des rematchs. Donc, d'une certaine manière, je suis plutôt content de me dire que ça va peut-être devenir quelque chose, ça. Voilà, bon, je dérive parce que sur les tag teams, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, c'est un peu la news. Ouais.
Ouais. Comme IRM, je te rejoins. Effectivement, c'est une modification subtile qui peut apporter pas mal de bénéfices au show, hein, puisque ça évitera d'avoir des rôles du lendemain qui seraient des redites de déjà été faits. À voir combien de temps ils tiennent là.
Oui, à voir. Ouais.
Combien de temps ils tiennent cette règle. Maintenant, il faut que derrière cette rivalité entre Roux et Gable et The Revival, il y ait quelque chose d'écrit de concret. Hein. Il y a moyen de faire des bonnes choses quand même.
Oui.
On espère qu'on est vraiment sur un nouveau départ. Ensuite, voilà, on a une succession de vidéos footage, hein, de package vidéo. Je traduis de l'anglais par de l'anglais, c'est pas mal. pour nous présenter un peu les prochains jobbers de Monday Night Raw, les prochaines stars les anciennes stars de NXT qui vont monter. Alors, on a le monstre, le freak, Lars Sullivan. Hein, qu'on,
oui, alors lui, on sait qu'il arrive depuis un moment.
Voilà, hein, ça, c'est pas nouveau. On a Lacey Evans, une catcheuse de NXT là, une blonde qui joue les Patriotes. C'est une heel, hein. Elle est méchante. Il y a la tag team Ivy Machinery avec Tucker Knight et Otis Dozovic, qui sont deux gros bébés qui n'ont pas gagné de titre à NXT, mais c'est une équipe que ça fait un moment qu'ils travaillent ensemble, plutôt fun. Otis, il a fait un gros match, je ne sais plus si c'était contre Ciampa ou contre Adam Cole, qui était vraiment très très bon à NXT. Il y a un gros potentiel derrière le gros Otis là, qui a un physique massif, hein, assez spectaculaire, mais qui est très vif dans le ring, très souple, qui fait le ver de terre là, ça a moyen de mettre un peu le feu au public, ça peut être marrant. On a Nikki Cross qui va débarquer aussi. Donc Nikki Cross, c'était la dernière membre du clan Sanity. Elle est complètement tarée. Et on a EC3, le transfuge de la TNA, ancien rookie aussi d'NXT, hein, il avait participé à NXT quand c'était encore le télécrochet là.
Ouais, sa vignette vidéo était assez incroyable.
C'est ça, il a quitté NXT à un moment donné, il est parti donc un peu catché beaucoup à la TNA, à la Evolve aussi, chez les indépendants. Grosse masse de muscles, il est revenu à NXT il n'y a pas longtemps. Il est très doué au micro, hein, EC3. C'est un peu le total package, hein, pour le coup. Est-ce que y en a que tu connais, est-ce qu'il y en a que t'attends, est-ce que tu les vois faire une grosse carrière?
Écoute, je pense qu'il y en a en effet pas mal qui seront qui vont finir par être des jobbers assez rapidement. Mais de manière générale, il y a quelques montées qui moi me font plaisir. Heavy Machinery, c'est une équipe que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils ont ils ont le package entertainment nécessaire, ouais, pour venir dans le main roster. Ils sont drôles, ils sont impressionnants, ils sont charismatiques, donc ils sont probablement pas destinés à de grandes choses, mais c'est une équipe qui fera tout à fait le boulot, je pense, dans une mid-card, quel que soit le show où ils iraient. Ils ont une vraie maîtrise en plus du comedy tag team wrestling, donc c'est vrai que moi j'aimerais bien les voir contre The Bar, contre le New Day à SmackDown, même si je pense quand même que Raw a peut-être plus besoin d'équipe, donc je pense que ce sera pas forcément pour SmackDown, mais bon. Voilà, eux, je les aime bien. Bon, Nikki Cross, moi, j'aime beaucoup, même si elle a quand même marqué, sa gimmick est quand même très estampillée NXT et pas plus pour moi. Alors, c'est la crainte que j'ai avec Nikki Cross, parce que c'est vrai que tout le monde la voit, tout le monde veut la voir crever l'écran plus haut, mais je pense qu'elle a cette gimmick casse-gueule que d'autres avant elle ont eu et qui va peut-être pas forcément bien se retranscrire sur la transition avec le main roster. Néanmoins, si ça peut permettre à Sanity de peut-être de reprendre un peu du poil de la bête et puis de faire quelques bons matchs aussi en solo dans la division féminine, pourquoi pas. Donc je me dis que elle est pas non plus une cause perdue. Bon, les Sivans, j'y vois vraiment rien d'intéressant. EC3, franchement, moi, j'ai pas connu son travail à la TNA et ce que j'ai vu pour l'instant me convainc pas. Donc, je me dis que ça peut peut-être faire un gars de mid-card correct parce qu'il a le physique, mais je sais pas. Je suis pas transcendé par ce gars-là. Et puis, après, écoute, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oui, si, Lars Sullivan. Là, par contre, lui, Lars Sullivan, s'ils font quelque chose de bien, c'est comme tout. De toute façon, c'est comme tous les big men un peu athlétiques qui un peu monstre de foire comme ça. Si c'est bien géré, il peut tout casser, quoi. Mais bon, c'est à voir. C'est à double tranchant, ce genre de profil aussi.
Ouais. Il a le total package aussi pour la WWE. Ouais. Maintenant, ça peut être un Kane comme ça peut être un Snitsky, quoi. Hein. Donc,
voilà, c'est ça.
C'est 50-50.
C'est du 50-50.
Ouais, moi je suis assez confiant avec EC3 quand même, hein, je pense.
Ouais, écoute, je le connais pas.
Ouais, il a du mal à convaincre les aficionados de NXT parce qu'il a un physique et un catch qui est vraiment pas calibré indie comme la plupart de ceux qui font rêver les fans de NXT, hein, comme l'Undisputed Era ou Ricochet. C'est plus que c'est vraiment un catcheur formé à la WWE de toute façon, donc il a un catch beaucoup plus old school. Mais bon, justement, comme il a le physique, comme il a le catch, je pense qu'il pourra s'intégrer assez facilement à la WWE. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à des grandes choses tout de suite pour tout cela. Hein.
Non.
Il va falloir qu'ils payent leur dû, hein, comme on dit. Payer leur dû un peu comme Bobby Lashley. Qui se retrouve au milieu du ring, ladies and gentlemen, hein, Bobby Lashley. Il prend la place de Elias ce soir. Il est toujours accompagné donc de Lio Rush, hein, qui fait un peu le discours. Donc ils nous font un pastiche d'Elias. Hein, il a là une guitare fracturée dans les mains, Elias. Mais au lieu de chanter, donc il va faire ses poses plastiques, ses célèbres poses plastiques. Et ils vont se moquer un petit peu de l'équipe de foot locale pour un peu de cheap hit. Et puis ensuite, il va montrer son cul, hein, comme d'habitude, ce bon vieux Lashley. Ça fait toujours plaisir de voir le cul de Lashley. Et là-dessus, on annonce Elias, hein, la petite annonce habituelle de la speakerine. Et en fait, Elias se glisse dans le dos de Lashley et l'attaque à coups de guitare. Dans le dos, un coup de guitare qui fait pas trop mal à Lashley quand même, il se relève. Elias s'en va. Voilà, c'est la suite aussi de TLC où Elias avait gagné le match de l'échelle avec décroché de guitare, puis qui s'était fait passer à tabac par Lashley. Bon, là, il n'y a rien de neuf sous le soleil, hein, j'ai envie de dire.
Non. Non, voilà, c'est ça. Rien de neuf sous le soleil. C'est la suite de TLC. Elias s'est fait tabasser. Cette fois, il vient lui rendre la monnaie de sa pièce. On continue. On verra s'ils arrivent à nous faire lever de nos sièges pour leur prochain match.
Quand ils ont décidé la grande révolution, ils ne se sont pas dit que ce serait peut-être bien de mettre un terme à cette rivalité.
Non.
C'est là qu'on voit que c'est un peu beaucoup des effets d'annonce, tout ça. Ouais. Effet d'annonce, justement, le retour d'un favori des foules, Sami Zayn. Sami Zayn est bientôt de retour, on ne sait pas vraiment quand. T'es content de savoir que Sami Zayn revient ?
Ouais, très content. Ouais, très content. En plus, vu son package vidéo, il ne change pas d'un iota et son personnage, moi, je le trouvais très bien calibré, très bien adapté, il le maîtrisait bien, donc je suis content de le voir revenir comme ça. Donc oui, forcément, c'est un catcheur que je suis content de voir revenir. Ouais.
Kevin Owens aussi est annoncé hein, plus tard dans l'émission.
Pareil.
alors ça contredit un petit peu les news qu'on a, parce qu'on nous disait qu'ils étaient encore en convalescence pendant un petit temps. Mais il est temps qu'ils reviennent, hein, parce qu'effectivement, c'était un peu ce qu'il disait, le sel de l'émission. Hein,
c'est ça. Bon, après, Returning Soon, ça peut vouloir dire beaucoup hein, à la WWE. Hein, mais,
je pense que c'est aussi un effet d'annonce et qu'on ne les verra pas avant un bon mois. Hein, mais ouais. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont quand même en recherche d'audimat, donc ça mange pas de pain de nous rappeler que ces deux-là reviennent. Ils risquent d'ailleurs d'être tous les deux dans une bonne position, hein, parce que les ratings se sont effondrés après leur départ. Hein, donc généralement, quand c'est comme ça, quand tu reviens...
Kevin Owens Show.
Exactement. Bon, moi, je pense que la chute des ratings, elle est beaucoup liée au départ de Roman Reigns. Et,
oui, ça, c'est, et là, je pense que c'est sûr. Ouais.
La surdose de catch féminin
Ah, ça...
Je suis pas sûr que le grand public est vraiment fasciné par le catch féminin telle dose. Hein. Faut peut-être pas en mettre deux heures par show. Il y a de bon, hein, il y a du talent et tout ça, hein, mais je pense pas que c'est ce que veut le public de Monday Night Raw toutes les semaines, quoi.
Non, je pense pas.
D'ailleurs, bah, c'est ce qui va faire le main event, hein, parce que je crois qu'on a fait le tour de tout.
Et oui.
C'est Ronda aussi. Qui débarque, donc elle nous rappelle un peu ses exploits de TLC, hein, elle a fait taper Nia Jax, ensuite elle nous explique un peu ce qu'est un champion, hein, tout ça sous les champs à la gloire de Becky Lynch, donc elle nous explique que un champion c'est ce qui peut ressortir le mieux. De ce qui veut, comment, alors comment elle tourne ça, c'est ce qu'il y a de mieux dans l'humanité,
l'humanité
a
de mieux à offrir,
voilà, si on doit tourner concrètement. Elle décide de mettre en place une nouvelle tradition, au lendemain de chaque défense de titre en pay-per-view, elle lancera un open challenge, d'ailleurs ce serait bien que tous les champions le fassent, nous dit-elle. Alors on a une vue dans les coulisses qui nous rappellent les plus belles heures d'ailleurs de la division féminine, où toutes les filles sont en train de piailler pour avoir leur title shot dans la gorilla position là.
Ouais.
Alors il y a Stéphanie qui gueule un grand coup et là ça suffit les poulettes là, vous me suivez. Elles arrivent sous le titan tron et Stéphanie nous explique que comme tout le monde veut participer, il y aura un gauntlet match ce soir de 8 personnes. La gagnante aura droit à un title shot la semaine prochaine contre Ronda Rousey. Et on démarre avec Alicia Fox et Bayley. Bayley se blesse un peu au genou pendant son affrontement contre Alicia Fox.
Ah,
elle se mange un bon big boot de la part de Foxy, mais elle réussit à la coincer dans un crucifix roll-up. Donc Alicia Fox est éliminée. Ensuite, c'est Dana Brooke qui débarque, qui se défend bien, mais qui est piégée dans un Bayley to Bayley out of nowhere pour le compte de 3. Donc elle est éliminée également.
Ah, putain, c'est vrai qu'il y a eu Dana Brooke aussi.
Ouais. Eh ouais, Dana Brooke était passée par là. Ouais. Ensuite, c'est Mickey James qui est dans le ring après la pub. Donc elles sont en train de se foutre sur la gueule, toujours avec Bayley qui fait une belle performance, mais qui se fait piéger dans un DDT. Après toute une séquence de contre et de contre-contre. Donc Bayley est éliminée. Mickey James doit ensuite affronter Ember Moon, qu'elle cueille direct avec un dropkick au ras du sol là, quand Ember Moon essaie de monter dans le ring. Ça se bat bien. Elle est très en beauté, Mickey James, hein, ce soir. Mais elle se fait cueillir par l'éclipse d'Ember Moon. Ensuite c'est Natalia qui vient, elle réussit à placer un roll-up sur Ember qui est éliminée. Ensuite Ruby Riott débarque, donc elles ont encore de l'animosité hein, entre les deux, mais Ruby Riott est éliminée sur roll-up. Natalia continue son incroyable performance quand Sasha Banks arrive, Sasha Banks qui est en bonne position pour gagner hein, puisqu'elle est fraîche. Mais elle se fait piéger dans le sharpshooter plusieurs fois et au final elle finit par abandonner et c'est la victoire de Natalia. Natalia qui console un petit peu Sasha Banks. Il y a Ronda aussi qui débarque, on les vient tout simplement féliciter Natalia et donc ça se termine sur Natalia qui est un petit peu ovationnée par la foule. Ce sera donc la semaine prochaine, Ronda versus Natalia. On aura aussi Paul Heyman qui sera là la semaine prochaine, ainsi qu'un match Rollins contre Corbin. Sachant que l'émission de la semaine prochaine, elle est enregistrée, parce que c'est Noël. Donc, toute la séquence féminine en fin de show, une bonne heure de Gauntlet match. Est-ce que tu as été convaincu?
Est-ce que j'ai été convaincu? Non, non, j'ai pas globalement non, parce que ça me fait chier de regarder un match d'une heure de catch féminin.
Il y avait des gros creux, hein.
Avec des gros creux. Bailey, Alicia Fox, Bailey, Dana Brooke, Mickey James, Natalia. Je sais plus. Enfin bref, tout ça, c'est des annonces qui me font clairement pas rêver. Donc non, ça m'a pas transcendé. Par contre, je trouve que voilà, écoute, ils ont fait un beau travail.
On leur a demandé beaucoup, hein. J'ai l'impression, hein. Je sais pas ce que t'en penses.
On leur a demandé beaucoup. Franchement, ils avaient mis la barre très très haute avec ce match, je trouve. C'est super dur de faire un gauntlet match d'une heure comme ça et de garder la foule impliquée en troisième heure, en main event. Enfin, bon, grosso modo, c'était une situation presque ingagnable, hein, pour elle, on va dire. Alors, il y avait des bonnes idées parce que voilà, je trouve que ce qu'ils font avec Natalia est pas mal. Ils l'ont fait partir un peu du milieu de show. Elle a enchaîné 3 victoires de suite à Babyface, un petit peu comme ce qu'elle a fait à TLC. L'histoire qu'elle avait dans son match contre Ruby Riott était bonne. Il y a des bonnes idées. Son histoire de Babyface vétéran vaillante là qui triomphe de l'adversité, ça marche. Il y a des bonnes intentions. Sa future rivalité contre Ronda Rousey peut être aussi très sympa. Et d'ailleurs très bénéfique pour Ronda. Donc dans l'ensemble, il y a des bonnes intentions, mais c'est un peu le même constat qu'à TLC, c'est-à-dire que voilà, l'enrobage est un peu long, est un peu et peu inspiré quand même, je trouve. Donc ça nous donne un truc qui est quand même assez indigeste. Moi j'ai trouvé, voilà, j'ai pas envie de voir une heure de ça. Donc voilà, je reste quand même assez positif sur l'idée qu'ils avaient derrière, parce que je trouve que écoute, un gauntlet match, c'est toujours assez efficace pour booker un challenger, babyface qui plus est, avant un match pour le titre, rebooker quelqu'un, parce que franchement, là, Natalia, elle enchaîne une victoire en pay-per-view à quasiment 1-3, et derrière, une belle prestation de 20-25 grosses minutes en gauntlet match pour aller affronter Ronda, elle est bien, tu vois, genre, elle arrive, elle est bien, elle a du momentum, donc ça, c'est cool.
Ouais. Bah, pour une fois, c'était un travail dans la durée pour la construire, pour qu'elle soit
créée.
Face à Ronda, hein.
Donc ça on va dire que ça fait plaisir, tu vois, c'est pas juste pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé plus tôt dans l'émission, c'est pas un Fatal 4-Way avec 4 équipes, on met tout dans un mixeur, on secoue et puis on voit celle qui sort et puis hop, ça va nous faire un title match pour la semaine suivante. Là, il y a une construction sur la durée, il y a une histoire, il y a Babyface qui a gravi petit à petit les échelons pour en arriver là, donc c'est ça fonctionne pas trop mal, mais finalement, ça met aussi un petit peu en lumière les limites de la division féminine à Raw, dans un match comme ça, tu mets un petit peu en scène quand même les faiblesses d'une division qui est pas forcément super emballante, même si je comprends qu'ils aient voulu aussi éviter certains croisements parce que voilà, si on a eu une succession de matchs chiants aussi pendant le Gauntlet, c'est pas non plus innocent, c'est parce que ils ont peut-être pas envie de faire Sasha Banks contre Ember Moon ou d'autres combinaisons qui auraient été un petit peu plus fun, parce que là c'est la première qui me vient, mais voilà, tu sens quand même que les potentiels bons matchs se sont bien évités. Mais bon, c'est forcément pas innocent, quoi. Donc bon voilà, ça donne un bon an mal an, ça donne un spectacle assez mou du genou, mais qui sert une histoire qui est quand même assez efficace.
Ouais, on a réussi à construire le personnage de Natalia sur la durée, donc c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir, hein, au final, parce que je pense pas qu'on va s'enthousiasmer pour un Natalia Ronda. Voilà, un gros challenge pour les filles qui ont encore été plutôt bien relevées, mais je suis pas sûr que c'est avec ça qu'on va...
Non.
On va relancer les ratings, hein, clairement.
Je ne pense pas non plus.
C'est tout ce qu'on peut dire de ce Monday Night Raw. Bah, c'est l'heure du top et du flop. Et de la note, ce qu'on appelle le mot de la fin, communément.
C'est ça. Eh ben, c'est parti. Alors, écoute, je vais donner, je vais quand même donner un 3 sur 5 cette semaine, un 3 d'encouragement à ce rock. Bon, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, on va pas se mentir. Hein. Il y a pas mal d'enfumage avec cette autorité nouvelle version. Nous sommes les bookers et tout. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, hein, très peu de choses ont changé à part quelques paquets de vidéos pour annoncer des montées pas forcément très excitantes. Très peu de choses ont changé à Raw, mais bon, ça s'est plutôt bien goupillé dans l'après TLC. Les histoires s'enchaînent. On a quelques nouveaux challengers. Il y avait des bons matchs, donc voilà. Bon, un petit 3 d'encouragement. Mon flop, je vais l'évacuer tout de suite. On en a parlé. Je vais le donner à Seth Rollins qui m'agace un petit peu en ce moment.
Burn it down.
Ouais, sa promo était pas bonne, et aussi bien dans la façon qu'il avait de la faire que de ce qu'on lui faisait raconter. Je suis très perplexe sur son positionnement. Et mon top, écoute, mon top, je pense que je vais le donner à qui, mon top? Ça va peut-être être un top un peu amusant, mais je pense que je vais le donner à Baron Corbin, mon top, parce que écoute, je trouve que voilà, cet angle qui était un peu rediff de TLC, il a bien fonctionné, et la réaction qu'il a réussi à susciter du public, je trouve, prouve ou valide en tout cas, qu'il fait quand même pas un si mauvais boulot que ça depuis quelques semaines pour se faire détester et polariser un petit peu l'attention. Écoute, bravo à lui, il s'est bien fait botter le cul, il va encore se faire bien botter le cul. Mais il se fait bien botter le cul. Voilà, il les prend bien, ces bottages de cul. Donc c'est bien.
Voilà, c'est le comment on appelle ça, le pigeon de l'histoire, enfin l'homme de paille, ou le voilà, c'est lui qui va
prendre. Exactement.
Le paratonnerre.
Mais il en faut, et il en faut des bons.
Ouais, voilà, il a fait le job. Écoute, qu'est-ce que je pourrais mettre en top? Je vais donner le top à Vince McMahon. Je pourrais aussi le donner au patron, mais je vais le donner au patron. Ça fait toujours plaisir de le voir venir mouiller le maillot un petit peu quand on est en difficulté. Le flop. Seth Rollins quand même. Hein. Je vais donner à Dean Ambrose. Tiens, je vais le donner à Dean Ambrose. Il arrive pas à me convaincre en heel, et c'est à lui de faire le taf là, et c'est à lui d'être beaucoup plus fun toute la semaine et dans ses matchs de pay-per-view. Donc il va se manger le flop de cette semaine. Et je vais donner 2,75, là un petit peu moins que 3, un petit peu plus que la moyenne. Voilà, de toute façon, on peut pas y avoir de miracle. On est content qu'ils nous disent qu'ils vont un peu changer les choses pour qu'on soit plus satisfait du produit fini, mais c'est sûr qu'en une soirée, ils allaient pas, tout modifier, hein. Il y a des impératifs qui sont ce qu'ils sont. Je veux dire, t'as le roster que tu as, hein, donc tu peux pas inventer des trucs non plus phénoménaux, parce qu'on dit aussi souvent qu'il y a le meilleur roster de l'histoire, etc., etc., mais
oui. Il y a des histoires en cours, il y a des échéances, il y a le Royal Rumble qui arrive et tout. Enfin, tu peux pas non plus d'un seul coup tout bouleverser.
C'est ça, mais je suis pas sûr qu'un roster où tu as Bobby Roode, Bobby Lashley, Apollo Crews, Natalia, le Riot Squad, c'est vraiment le meilleur roster de l'histoire. Hein. je pense qu'ils partent quand même à handicap avec les gens qu'ils ont actuellement. Mais,
écoute, en tout cas, Arrow, sans doute. Oui.
C'est plutôt irréprochable du côté de SmackDown, hein, au niveau de ce que vous avez dans le roster. Il n'y a pas grand chose à redire.
J'invite tous nos auditeurs à se jeter sur l'épisode d'hier soir, parce que c'était. Il y a de belles choses.
Ouais, mais ça n'empêche pas SmackDown de couler aussi dans les ratings. Hein. Au final, la qualité, c'est toujours relatif, hein, comme on dit.
C'est ça.
Donc voilà, je pense que le problème, il est autre part. Qu'il faudra autre chose que des effets d'annonce pour pouvoir relancer la machine. Même si on est loin, ils font aussi des effets d'annonce comme ça pour surfer un peu sur la vague des réseaux sociaux. Mais je suis pas sûr que l'émission soit vraiment en danger. Hein.
Non.
Même s'il y a eu quand même une belle chute, hein, des ratings, ça reste quand même une des plus grosses audiences de la télé. Hein. Donc voilà, 2,75 pour ce show. Bah, on espère qu'on va continuer donc dans une route de révolution constante là, Monday Night Raw, donc on va faire une nouvelle chose la semaine prochaine. Et un Finn Bálor en top guy de la promotion. Bah voilà, Giscal, merci beaucoup d'être venu.
Ah bah, merci de m'avoir accueilli pour ce show rouge de la révolution.
Je t'en prie, c'est toujours avec plaisir. Bah, je pense qu'on te retrouvera peut-être pour le show bleu. Tu travailles beaucoup, toi, en ce moment.
Hein. Là, il y a des grosses semaines. Hein. Là, je me donne à fond avant les fêtes pour prendre un repos bien mérité ensuite. Mais oui, en effet. Ouais.
voilà, donc le supplément SmackDown qui arrive. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine, nous, pour la suite de nos aventures. Merci de nous avoir écoutés. On vous fait des bisous. Passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao.
Allez, ciao tout le monde.